La gang du matin.
Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30.
5h25 minutes et ça commence. Tiens, Phil Branch s'est levé debout.
Oh, coucou!
C'est du sérieux. Hey, là, on niaise pas.
Non, mais moi, j'ai fait des cours de voix cet été, puis on m'a dit qu'il fallait que je sois debout pour bien placer ma voix, ma respiration. Oui, avec un grand maître de la voix.
Oh, oui, qui t'a donné ce cours de voix?
Un certain Joël.
Elle le connaît pas?
Je donne pas mes références.
Oh, my God! Hey, ça commence fort.
Joannie,
ah ouais, je t'ai jamais donné de cours, mais mets-toi debout. Joannie, t'es trop grande. Rassois-toi.
Mais je suis plus grand qu'elle.
Oui, je le sais, mais pour une fille, elle est vraiment grande.
Ben,
non?
C'est non genré la grandeur. On est en 2022. Là.
T'as raison, mais j'ai à peine 5 pieds et 9. Fait que reste assis. Ouais. Comment ça va ce matin, les
ça
amis?
Ça va bien, ça va bien.
Ça va super bien. Avant-dernière de notre petit stretch du temps des fêtes. Puis on dirait que je m'accroche parce que c'est tellement le fun de travailler avec vous puis de pouvoir connecter avec les auditeurs comme ça. Là.
Tu vas pas pleurer demain,
c'est
là,
Joannie. C'est sûr, l'alarme commence déjà à couler.
Oh non! Joannie, c'est notre émotive.
Oui.
Ça prend ça.
Ça toujours dans un groupe, c'est important.
Oui, une émotive puis une ricaneuse.
Oui, j'ai un bon public, j'y ris facilement, mais je dirais que Joël, il cède pas sa place non plus.
Non, assez émotif.
Dans l'émotivité, là.
Oui. Hein? Toi, t'es-tu émotif?
Oui. Oui,
ah oui,
surtout depuis que j'ai des enfants. Surtout depuis que j'ai des enfants, je me gêne pas. Je me gêne
c'est
pas quand il y a une larme à couler, à coule.
Oui.
Puis quand je suis fâché, parce que l'émotivité, c'est dans les deux sens.
T'as tellement raison.
Exact.
On vient fâcher après nos
enfants.
Exact. Quand on sort aujourd'hui, là, on est quand même bien dehors.
On est bien, mais avez-vous trouvé que c'était pas mal venteux?
C'est très venteux.
C'est ça.
Il y avait une cochonnerie de poignée après un arbre. Là.
Oui.
Hey, ça, il y allait au toast.
C'est ça. C'est parce qu'on fait face à un petit changement de masse d'air.
Ben, explique-moi ça.
Écoute, fait qu'on est à 0 degré en ce moment, mais ça va diminuer à moins 2, moins 3 en cours d'après-midi. Avec le vent qui souffle, on pourrait ressentir à peu près moins 7 ce matin. Il y aura un dégagement en cours. Beau soleil en cours d'après-midi, mais on va toujours s'accrocher à ce petit 30 % de risque de flocons en après-midi.
OK. Phil Branch, ça s'est passé comment, toi, ton Noël?
Ça a été un peu stressant, un peu comme tout le monde.
Oui, effectivement. Oui. Ça n'a pas été le plus relax des...
Non, à 100 %. Moi, j'ai décidé, là, je pouvais donc la radio en direct de la maison depuis le 15 décembre. Je me suis dit, je ne prendrais pas de chance. Ma mère a une condition qui fait qu'il faut vraiment être en forme si on veut la voir à Noël.
Oui.
Et une semaine avant Noël, mon ex, qui est avec mes deux plus grands, son chum organise un party.
Okay.
Un party pour écouter de la boxe. C'est vraiment nécessaire à une semaine de Noël prendre ce genre de risque-là. Hey, tu stresses pour rien. Ben, qui a eu raison?
Toi,
c'est moi. Pour la première fois depuis notre séparation, j'ai eu raison. Et monsieur a attrapé la COVID.
Oh,
donc,
on était
sur le gros nerf à savoir si les enfants, les tests, les ci et ça. Et le résultat de ma fille négatif est rentré le 25 décembre à 11h45.
Wow.
À 11h50, on était dans la voiture direction Trois-Rivières pour aller voir mes parents. On attendait ce fameux test. Pour pouvoir les voir le jour de Noël.
Mais c'est un bon point que tu apportes parce qu'il y a plein de familles reconstituées, des parents qui font la garde partagée à gauche, à droite. Puis c'est sûr qu'il y a plein de familles qui ont eu un gros casse-tête à cause de ça.
Mais il ne faut pas faire de l'ingérence dans le couple de l'autre, mais quand même, là, avec la situation présentement, c'est dur de ne pas donner son opinion puis son avis. Je ne peux pas avoir le contrôle quand mes enfants sont là-bas. Mais
c'est une question de santé publique aussi, là, en ce moment.
Exact.
Mais tout ce que je retiens, c'est qu'enfin, tu as eu raison.
Yes, sir!
Oui, exact.
Nouveau info, Laurence Pellerin-Patnaud. De nouvelles mesures devraient être annoncées cet avant-midi.
Ben oui, Joël, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui devrait s'adresser aux Québécois aujourd'hui. Les annonces risquent de toucher les non-vaccinés, je vous avertis tout de suite. Selon le Journal de Montréal, ça va se passer vers 11h, donc vous pouvez être sûr qu'on va suivre ça avec attention. D'ailleurs, plus tôt cette semaine, je vous le rappelle, il y a plein de médias dont nous, on parlait du passeport vaccinal qui pourrait être imposé dans les succursales de la SAQ et de la SQDC. Est-ce que c'est cette annonce qu'on aura aujourd'hui? On pourra le confirmer vers 11h ce matin. Les mesures arrivent alors que Québec a enregistré hier son pire bilan des décès de la dernière année. 39 personnes ont perdu la vie en raison de la maladie. C'est un chiffre qui n'avait pas été aussi lourd depuis janvier 2021. Les hospitalisations aussi ont fait un bond de 158 par rapport à la veille. Donc, on surveille ça avec attention. Le comédien Guillaume Lemaitre-Vierge poursuit la presse pour près de 2 millions de dollars. L'acteur québécois en a contre le quotidien qui a dévoilé dans un article l'automne dernier, vous vous en souvenez probablement, son refus de se faire vacciner alors que ça relève de sa vie privée, selon ce que rapporte le journal. Le Guillaume Lemaitre-Vierge qui prétend que cette mauvaise publicité a nuit à sa carrière. Hier, il y a une centaine de personnes qui ont rendu hommage à l'employé de 22 ans qui, je vous le rappelle, est décédé dans un accident de travail à la Grande Roue de Montréal. Famille, amis, proches, ils se sont tous réunis au Vieux-Port pour honorer la mémoire de Riley Valsin. Je rappelle que le 25 décembre, le jeune homme a perdu la vie alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sur la traite du Vieux-Montréal. Et en terminant, il semblerait que certains influenceurs québécois soient revenus hier à Montréal. Un retour guetté par les autorités. Ouais, effectivement. Selon Radio-Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada les attendait de pied ferme à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Il avait reçu la liste. Donc là, il était prêt. Il y avait leur petit calepin. Puis là, il regardait. Bon, est-ce que celui-là est arrivé? Oui, non. Les fêtards qui auraient réussi à revenir sur un vol d'Air Canada, même si la compagnie avait confié plutôt qu'ils n'étaient pas les bienvenus à bord. Ces individus qui font partie du groupe, bon, qui ont fait la fête là, dans un avion Sunwing à destination du Mexique juste avant le jour de l'an.
Hey, merci beaucoup.
Ah, mais le vol s'est bien passé. Moi, je suis revenu hier soir avec eux. Là.
Pour vrai, aucun problème. Vous avez dormi non, tout le long?
Ça touchait presque pas dans l'avion. Ça a bien été.
Bon, j'ai vapoté un peu, mais ça, franchement...
On était dans le fond, c'est correct.
Gorgé de gin, là, ici et là, mais sans plus.
J'ai fait ça dans la salle de bain. Il n'y a pas un chien qui a remarqué.
J'ai arrêté au Artax au Mexique avant de m'en venir. Je me suis acheté deux ou trois bouteilles de tequila.
Mais moi, ce qui me fâche, là, Laurent, c'est que je pense que c'est ça l'organisateur de l'événement et faisait partie de ceux qui sont revenus, non?
Ben oui, mais lui, ça a l'air qu'il était revenu avant ça. C'était avant comme booké, il a quitté le navire pendant qu'il coulait. Dans
voilà,
le
exact.
Ça n'a pas de bon
en première classe, puis tout.
Oui. J'ai vraie honte pour le capitaine du Titanic. Hein, lui est resté jusqu'à la fin. On voit que c'est pas un film sur sa vie.
Hey, mais j'ai vu passer sur les médias sociaux une publication faite par l'organisateur en question, puis il disait « Hey, moi, je suis prêt à accorder des entrevues à des médias francophones et anglophones, mais seulement les plus gros médias. Alors, écrivez-moi par DM en DM si vous voulez une entrevue, mais seulement les gros médias. » Donc, on dirait qu'ils utilisent ça.
Oui, ils tirent profit de ça.
J'en ai profité, je lui ai écrit. On lui parle à 7h40 ce matin. Soyez là.
Ça, t'es big.
Soyez là.
Hey, d'ailleurs, il y a Justin Trudeau aussi qui avait quelque chose à dire là-dessus. On a un extrait.
Et quand une gang de sans-destin qui décide de partir comme des ostragos en vacances, c'est pas... c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Et je peux vous dire que Transport Canada et le gouvernement du Canada prennent ça très au sérieux. On va faire des suivis sur comment ça s'est passé.
Et... Il y avait un mot que je connaissais pas, moi, dans l'intervention, démoralisant. Moi, ce mot-là, je ne le connaissais pas.
Mais moi, je connaissais pas. Ostrogothe, c'est une personne ignorante et bourrue. C'est un personnage extravagant aussi.
Et ce mot-là, c'est sûr qu'on l'entend dans le bye-bye 2022.
Non,
là.
Parce que c'est trop proche. Ouais, si c'était l'année... Tu sais, genre là, si ça s'était passé juste avant le bye-bye, c'est sûr que In Extremis, il aurait fait un sketch là-dessus. Ouais. Mais là, c'est dans un an, le bye-bye. Ah, Ostrogothe,
tu trouves que c'est pas assez gros? Ah, non. Ce sujet-là.
On va avoir oublié ça.
Oh,
je te jure que oui, dans un mois, on ne parlera même plus de ça.
Hey, j'ai envie de te gager.
J'en ai fait, moi, des bye-bye. Oui, je peux t'en parler. on avait un extrait de Christine Morancy aussi, parce qu'hier, Arnaud Solli a décidé de faire une espèce de live. 33 000 personnes l'ont écouté pour rire de tout ça. On écoute Christine Morancy.
Tu m'as dit parce qu'Arnaud, il mouille, là, comme.
Ouais, je sais, Vic, ça a fait sortir les lézards.
C'est ça que là, tout le monde pense que t'es, on a tout fait une fête, mais dans le fond, il mouille. Genre, j'ai aucun plaisir, j'en ai plus de fun, là.
Ben, Charline, si je peux me permettre, ça aura bien été la seule fois du voyage que t'as été mouillé. Ben,
franchement, à 5h33.
Non, mais c'était déguisé, hein?
Oui.
Elle avait, des faux cils. Elle avait aussi... c'était fait des faux ongles.
Oui.
Mais avec une boîte de Timbit. Elle a tout montré le making-of sur ses réseaux sociaux. Donc, elle s'est donnée. Puis Arnaud, qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, se sert très, très bien des réseaux sociaux. On est bien fiers que ce soit une eau fantastique.
Exact. T'as bien raison.
Il y a Phil Roy aussi qui a écrit une publication qui m'a bien fait rire. Il a dit « Rendu où on en est, le retour des Nordiques ne serait pas le retour... » le plus attendu.
Oui.
On les attend, ces influenceurs-là. Puis moi, ça m'a fait capoter de voir que des gros médias américains en parlaient. TMZ, le New York Post, aussi du côté du Royaume-Uni, le Daily Mail. Donc, ça fait vraiment le tour du monde, cette histoire-là.
C'est incroyable. Si je vous disais que j'avais peut-être une solution pour contrer le vieillissement, ça vous intéresse?
Je suis toujours willing, moi.
Ça, je suis sûr. Si le sang des jeunes générations permettait aux personnes âgées de réduire les effets du temps, je vous explique. Il y a une équipe de scientifiques qui a prélevé du sang de souris dans la fleur de l'âge pour l'injecter à des spécimens plus âgés. Moi, déjà là, testé sur des animaux, tu me perds, mais on va continuer parce qu'on a un sujet à faire. Résultat, les cellules et les tissus des vieilles souris ont bénéficié d'une sorte de régénération musculaire améliorée suite à cette injection-là de sang de jeunes souris sur les vieilles souris. Alors, est-ce qu'un jour, on va s'injecter le sang de nos enfants, peut-être, pour qu'on puisse mieux vieillir?
Ouais.
C'est
paraître
weird.
Plus jeune. Oui, mais...
Là, moi, je leur ai déjà demandé un rein là, dans le futur, mais du sang, je n'avais pas pensé à ça encore. Là.
Mais moi, je pense qu'on devrait juste commencer par essayer de donner du sang à Emma Québec puis aux gens qui en ont besoin, aux malades. Ça,
déjà
c'est
là.
La première priorité. Mais ça me fait penser à un traitement de beauté qui existe déjà, le PRP,
oui.
Donc le traitement placement riche en plaquettes.
Oui.
Puis ça peut faire toutes sortes de choses. Moi, je me suis fait réparer une dent récemment, puis on m'a prélevé du sang, on a mis ça dans une espèce de mélangeur, on en a séparé les espèces de plaquettes, puis on m'a réinjecté ça dans la mâchoire pour que la guérison se fasse très bien et très rapidement. Puis ça fonctionne au bout. Je sais qu'on peut faire la même affaire avec le visage.
J'ai un ami qui a fait faire ça.
Oui.
C'est incroyable, mais ta face ensanglantée, comme si un tracteur avec des pneus, avec des crampons t'avait passé dans la face.
C'est
épouvantable, ça fait peur, mais ça finit par régénérer. Puis j'ai l'impression que le collagène revient après ça. Je sais pas trop. À vrai dire, je vois pas vraiment de différence avant et après son traitement. Mais bon.
Je sais que pour les cheveux, ça peut fonctionner.
Aussi,
ceux qui ont de
l'alopécie, ils disent
aussi. Ou les hommes qui commencent à perdre leurs cheveux, là, ce traitement-là peut aider avec la repousse.
Est-ce que vous êtes friand des nouveaux traitements anti-âge? Toi, fais-tu ça?
Non, zéro. Moi, je trouve tellement que je suis de plus en plus beau en vieillissant. J'ai pas de crème, pas rien. Non, mais pour vrai, j'ai jamais eu de complexe là-dessus. Je m'approche tranquillement, mais sûrement du 40.
Ouais.
C'est pas un step qui me fait peur. Je me suis toujours dit, il me semble que la vie a de l'air le fun à 40,
t'as
ça a l'air le fun à 50. Les problèmes de dans la vingtaine puis dans la trentaine, sont tellement des problèmes souvent superficiels. Tu te stresses pour rien. Hey, j'étais stressé pour pas grand-chose à 21 ans, puis tu te dis, gars, aujourd'hui, là, prenons ça un peu plus relax. Fait que j'ai pas...
Mais jamais de crème le matin, le soir, tu mets rien partout.
Tout ça est naturel, mon ami.
Wow.
Tout ça est naturel.
Ta blonde, est-ce qu'elle essaie des fois de mettre une petite crème? Est-ce qu'elle-même a une routine beauté plus complexe?
Ah oui, ma blonde a une routine beauté plus complexe.
Ça appartient surtout à la gente féminine encore, on dirait.
Ouais, mais non, j'ai pas embarqué là-dedans. Je reçois des fois des échantillons, là, puis ça fini là, dans un bon Noël en cadeau. Ça passe tout de suite à droite, mais non, j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans. Peut-être que je vais me regarder dans le miroir un matin et je vais me dire, oh, OK, il commence à être tard.
Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes là, qui développent une routine beauté
plus
longue. Puis moi, à chaque fois que j'essaie de dire à mon chum, mets-toi donc une petite crème, un petit sérum de vitamine C, un petit peu d'acide hyaluronique. À chaque fois que j'essaie d'y arranger les sourcils, là, il veut rien savoir.
Tu vois, moi, je suis ambassadeur d'une petite boutique d'esthétique à Montréal, l'espace Mawai, pour ne pas le nommer. Et chaque fois que je poste, je reçois souvent des commentaires très haineux. Ils disent « Franchement, t'es donc bien superficiel. » Mais c'est pas pour pas être superficiel ou pour être autre chose. C'est juste qu'on a-tu le droit de prendre soin de soi si on veut.
Oui, mais je respecte ça. Là.
Mais
c'est
le but,
pas parce
c'est
que moi,
pas
je
de
mets pas de crème.
Non, puis le but, c'est pas d'avoir l'air jeune à tout prix. C'est juste de prendre soin de soi. Puis je pense qu'un gars a autant le droit qu'une fille, si
absolument.
Ça étend, de prendre soin de lui.
C'est
là.
Qu'on lui a jamais donné ce droit-là. On lui a fait comprendre que pour lui, c'était pas important. Reste un petit peu sale, un petit peu ridé. T'es plus cute comme ça, t'es plus
c'est
sexy.
Vrai, pareil.
Ce sont les filles. Nous, les femmes, on va prendre soin de nous pour que l'homme nous trouve douce, belle, attirante, lumineuse. Mais les hommes, vous avez autant le droit de prendre soin de vous comme
Parce
ça.
Parce que le but de tout ça, c'est d'avoir l'air reposé.
Oui.
Tu sais, moi, c'est pas avoir, je veux pas avoir l'air de 30 ans, j'ai l'âge que j'ai, mais j'ai avoir l'air reposé à mon âge. C'est tout, c'est juste ça.
Ouais, mais moi, avec 3 enfants, j'ai abandonné ça. Le look reposé, ça fait longtemps, là.
Tu vois, j'ai 3 enfants, puis j'ai pas encore abandonné ça. Je veux tellement avoir l'air reposé. Hier, à l'émission, Joannie, tu nous parlais d'histoires de peur incroyables, surtout à l'hôtel Saint-Gabriel, où il y a des esprits, puis du monde un peu méchant qui sont là.
Oui.
Mais moi, le sujet dont je vais vous parler me fait encore plus peur qu'un esprit. J'ai plus peur des vivants que des morts.
Ah ouais?
Vraiment. Saviez-vous que votre cellulaire peut tout savoir sur vous autres? Peut-être même plus.
C'est vrai, ça, c'est pas une légende urbaine?
Ben, en tout cas, j'ai des choses inquiétantes à vous révéler sur votre téléphone. Votre téléphone intelligent vous suit partout où vous mettez les pieds. Alors, il paraît que caché dans les paramètres se trouvent les services de localisation. Mm-hmm. Ça, vous le savez. Donc, si le vôtre est activé, votre cellulaire a en main la liste de tous vos déplacements et partout où vous allez.
Les jours de semaine, si j'embarque dans la voiture à 18 h, ça me dit de me rendre au travail.
Voilà.
Oh, ouais.
Automatiquement, on me propose d'ouvrir le plan sur mon téléphone intelligent. À chaque fois.
Mais ça, c'était peur, hein?
J'aime pas ça.
Mais moi, je le désactive des fois. une journée où je sais que je vais avoir besoin de batterie. Tu sais, une journée de festival au Chiaga, tu te dis, il faut absolument que ma batterie toffe jusqu'à 2h cette nuit quand le party va se terminer. Mais je désactive tout ça, là, parce que ça, c'est énergivore au bout.
Il paraît, ouais, c'est ce qu'ils disent. Ça utilise beaucoup d'énergie. Une autre chose inquiétante, le téléphone intelligent enregistre tout ce que vous dites à Siri. Chaque
moi,
fois que tu demandes. Moi non plus, moi, Siri.
Je l'ai assez.
Moi, j'haïs Siri, puis l'autre aussi, comment qu'elle s'appelle? Ah, Alexa, moi, ces deux-là, là, je ne veux pas lui parler. Mais Apple ferait la collecte des données provenant de Siri pour mieux vous comprendre et améliorer la communication avec l'appareil. Mon œil! Tout ça, c'est pour apprendre à mieux nous connaître, à nous pitcher de temps en temps
des petites pubs.
Troisième affaire, les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone intelligent sont récupérées par le fabricant. Donc, la compagnie chinoise d'appareils Android est reconnue pour utiliser à ses fins de l'information personnelle de ses utilisateurs, comme les mots de passe, par exemple. Tout ça dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Ça, oui, c'est ce qu'ils vont vous dire. Votre téléphone intelligent conserve tous vos messages.
Ça, je le savais.
Oh, c'est vrai, ben, même
j'écoute
si t'es effacé.
District 31, ils sont toujours capables de retrouver des vieux textos qui ont été effacés.
Mais c'est fou parce que même si t'es efface, même si t'es lis pas, même si ils sont quand même capables, ils vont rester là, mais pour un temps limité, qu'ils disent, mais quand même, c'est tout scripté, ça s'en va dans un iCloud quelque part et tout le monde peut relire tes messages. Hey, c'est épeurant, comme ça se peut pas.
Mais tu sais, moi, ça me dérange pas que quelqu'un en Chine voit comment je me déplace puis qu'il puisse lire mes messages. Je voudrais juste pas que quelqu'un au Québec mette la main, tu sais, sur ces messages-là situés dans mon iCloud puis que ça devienne public. Moi, c'est ça ma grande crainte. J'ai toujours peur que mon téléphone me filme à mon insu. Puis moi, tu sais, quand je prends mon bain, j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mes livres là-dessus, j'écoute de la musique sur mon téléphone. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur d'être live en direct sur
sans
Instagram
savoir.
Ou Facebook sans le savoir. Parce que c'est déjà arrivé à mon chum. Il n'avait pas sécurisé l'écran de son téléphone. Puis on prenait une marche à un moment donné. Puis juste le mouvement de la jambe a fait en sorte qu'il a envoyé une photo de moi en maillot de bain à un groupe de chums de gars, des amis golfeurs sur Messenger. Fait qu'un groupe de 50 gars avec qui je jouais au golf, tout le monde a reçu une photo de moi en maillot de bain. Puis c'était pas une photo qui était jolie. Il n'y avait pas des ongles.
Non, c'était pas fait pour être envoyé.
Non, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, on dirait que je suis paranoïaque. J'ai peur d'envoyer des photos ou le mauvais message à la mauvaise personne ou que mon téléphone fasse tout ça sans que j'en sois consciente. C'est ça ma grande peur.
Mais c'est sûr que le téléphone nous entend parce que moi, chaque fois que je parle, par exemple, il n'y a pas tellement longtemps pendant le temps des fêtes, je parlais d'une sorte de botte que je voulais m'acheter. Bien, le soir, en me couchant, j'avais la pub de cette botte-là qui apparaissait. Mais il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part. C'est pas des hasards de vie, ça. Mmh.
Aussitôt qu'on parle de magasiner une voiture, les concessionnaires automobiles sont forts là-dessus. Parler là, d'une marque de voiture au courant de la journée, c'est sûr que vous aurez de la pub le soir.
Ah ouais.
Mais ça fait peur.
Je trouve que ça devient un petit peu too much. Là. On peut-tu se calmer?
Mais c'est à nous autres à se calmer le téléphone aussi.
T'as raison. Mais c'est parce que là, on a tellement besoin de ça pour tout faire dans la vie. C'est juste nos meetings avant de commencer la radio.
Mais oui, tout se fait là-dessus.
Le téléphone via Zoom, tout ça. Ça devient difficile de s'en défaire.
Oh, en tout cas, on va tout jeter ça aux poubelles.
Ah, oui.
J'ai bien hâte de voir la nouvelle génération. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont tellement avoir vu leurs parents toujours là-dessus, là, qu'ils vont se dire, nous autres, on veut plus ça, on va revenir au téléphone à roulette puis au pigeon voyageur. Puis on va retourner
avec...
Ça serait extraordinaire.
Ça.
Ah, mais oui. le nombre de... Puis moi le premier, là, mais tu vas dans des parcs, par exemple, avec tes enfants, le nombre de parents qui sont sur leur cellulaire puis les enfants qui crient, papa, regarde... Mais on fait tous ça... Parce qu'on en profite pour faire un peu de travail pendant qu'on est là puis que les enfants jouent.
Mais il y a une mode présentement, là, on est en train de lâcher les téléphones intelligents puis on retourne au bon vieux flip. Vous vous souvenez du téléphone à flip où pour texter un C, il fallait que tu tapes trois fois sur le 2.
C'est-à-dire que mon père va être à la mode. Mon père,
va être à la mode. Oui. On essaie de contrer la dépendance un peu. C'est une façon là, de prendre un téléphone flip.
Ben, c'est une belle façon de le faire, je trouve. T'sais, avec ton téléphone, tu peux juste l'utiliser pour texter ou appeler.
That's it.
Puis après ça, décroche.
Oui. Hey, comment je ferais, par exemple, pas de GPS?
Moi aussi, Joël.
Moi, j'ai trouvé un petit truc pour lâcher mon téléphone intelligent. C'est pas le truc le meilleur.
Mais quand même.
Je me suis muni d'une Apple Watch. Donc, tout ce qui rentre en texto et en appel, je le sais sur ma montre, mais je perds plus de temps sur Facebook et sur Instagram parce que quand je rentre à la maison, je laisse mon téléphone dans la chambre. Donc, dès la première semaine, on m'a envoyé un message pour me dire, au courant des 7 derniers jours, vous avez diminué votre consommation de 20% sur votre téléphone intelligent. Fait que je me dis, c'est une piste de solution.
Oui, quand même.
Mais c'est pas parfait, mais bon.
Mais c'est pas banal. Déjà, on voit 20%
l'amélioration. De moins.
Une dépendance par une autre.
C'est ça, exact.
On est le 6 janvier. Qui dit 6 janvier dit la fête des rois.
Moi, oui. J'avais oublié que ça existait, la fête des
rois. Ben, ça existe, certain. Mais ça, tu vois, c'est une autre chose quand tu as des enfants. Chaque petite fête peut être, je sais pas, ça peut être le fun.
Ah non, le skipper, nous autres, c'est de la maison.
Oui. On skipper la fête des rois, Phil.
C'est vrai.
Oui.
Moi, j'adore. Je fais ça chaque année.
Oui, mais c'est qu'on fête au juste. Là.
Bon, fête, bon, ça, je peux. Écoute, la fête des rois, c'est encore fêté particulièrement en Amérique latine puis en Europe. En Espagne, pour Portugal, c'est même à cette date-là que plusieurs familles décident d'échanger des cadeaux. C'est là que ça se passe. C'est pas Noël, c'est là. Et pourquoi la fête des rois? Bien, c'est pour représenter nos trois Balthazar, Melchior, puis l'autre.
Puis l'autre, oui, c'est
puis
ça.
Mathieu.
Puis Mathieu. Non, c'est pas Mathieu, non. Pauvre toi. Mais c'est les trois rois
mages. Gaspard.
Ben oui. On l'oublie
moi,
tout le temps.
Moi, j'étais allé à l'école privée. Hein. Okay. J'étais allé aux frères. Fait que
ben
c'est
moi
Gaspard.
Aussi, j'étais allé aux frères, mais ça fait
ça
trop
fait
longtemps.
Ça fait juste plus longtemps.
C'est ça, je m'en rappelle plus. Mais eux avaient apporté donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est pour ça que le 6 janvier, donc on célèbre cette fête. Pourquoi est-ce qu'on met une fève dans le gâteau? Ça, c'est dur à expliquer.
C'est parce que ça s'est passé. Tu sais, on fêtait ça il y a très, très, très longtemps. Les gens étaient très, très pauvres. Puis ça fallait qu'il y en ait un qui ait un peu de protéines. Hein? Ouais. Donc, on se disait, lequel va être le plus chanceux qui va pouvoir manger une petite fève?
Une belle petite fève.
Raide, raide pour se péter une dent, mais au moins un peu de protéines. Bref, on fait cette fête-là maintenant un peu partout sur la planète. Et si ça vous tente, on déménage à Bruxelles parce que eux autres, ils mettent des fois des garnottes en or, 24 carats, dans le gâteau. Donc, le gâteau te coûte cher, à peu près 300$, mais la personne qui a la part de gâteau avec la garnotte de 24 carats dedans, bien, quand même, ça y fait un petit souvenir.
Ça, tu vois, ça m'intéresse davantage.
J'ai vu, moi aussi, cette nouvelle-là sur Internet, puis juste en haut de la nouvelle, il y avait une pub pour le centre dentaire La Pointe. Fait que tu vois, tout ça, c'est parce que si tu croques dans une petite garnotte d'or,
oui.
Ça pourrait te défaire une molaire.
On achète un sourire.
Mais c'est-tu un bon gâteau? Ça ressemble à quoi, ce gâteau-là?
C'est une pâte feuilletée. À vrai dire, moi, j'apprends le déjà fait, là, mais c'est une pâte feuilletée. Et à l'intérieur, c'est souvent soit frangipane ou soit un peu de pomme. Okay. Donc, c'est assez sec, mais c'est bon, avec un petit chocolat chaud. J'aime ça, moi.
Est-ce que c'est un gâteau de compétition, toi, qui as animé le prochain pâtissier du Québec?
Non, on n'a pas... Mais c'est sec, pour vrai. Okay. C'est pas si bon que ça.
Bon. Mais il y a une bine,
Il y a une bine, c'est ça qu'il faut trouver.
Peut-être de l'or, si vous êtes chanceux.
Oui.
Peut-être de l'or.
Peut-être même de l'or.
Jojo Annie.
Oh yeah.
La grosse Joannie.
Joannie, la femme la plus âgée de la planète, vient de fêter son anniversaire.
Oui, la japonaise Kane Tanaka a célébré ses 119 ans le 3 janvier dernier, ce qui fait d'elle la femme la plus âgée sur Terre. D'ailleurs, elle détient depuis 2019 le record Guinness de la personne la plus vieille sur la planète. Alors, Kane Tanaka est née en 1903, puis à l'âge de 19 ans, elle a épousé le propriétaire d'un petit magasin de riz, puis elle a continué de travailler dans ce commerce familial jusqu'à l'âge de 103 ans.
Oui,
prendre sa retraite à 103 ans, il faut que tu l'aimes en titi ta job.
Ça va être un méchant fond de pension, c'est la pile depuis tout ce temps-là. Hein? Wow!
Fait que clairement, Tanaka, c'est une toffe. Elle a traversé deux guerres mondiales, la grippe espagnole et la pandémie qu'on vit actuellement.
Ouais.
En plus de plein de gros changements, la télévision, l'électricité, tout ça. Donc, c'est quand même bouleversant, tous ces changements-là. Et ce qui l'aide à vivre longtemps, donc sa philosophie de vie pour traverser les époques, c'est de ne pas trop penser au passé ni au futur et d'essayer de vivre pleinement le moment présent. Puis quand on y pense, c'est pas fou. Parce que si on arrête de penser à ce qu'on aurait pu faire de mieux ou de différent dans le passé, puis qu'on arrête aussi de s'inquiéter avec le futur,
bien,
on devient instantanément moins stressé. Puis ça, en retour, ça nous aiderait à vivre plus longtemps.
Tellement
raison.
C'est
pour ça qu'on nous recommande tout le temps de faire de la méditation puis du yoga, parce que c'est vraiment une technique qui nous aide à s'ancrer dans le présent. C'est prouvé scientifiquement. Alors, je me demandais, les gars, vous, est-ce que vous arrivez à mettre votre cerveau à off puis à vraiment être dans le moment présent?
Hey, moi, je vais mourir jeune avec ce que tu viens de dire. Non, mais je suis nostalgique. J'aime ça être nostalgique. Tu sais, la première chose que je fais le matin en me levant, c'est de regarder mes souvenirs sur Facebook.
Ouais, mais ça, c'est correct. Ouais. Ça, je pense pas que ça... C'est qu'il y en a qui ont beaucoup de regrets. Regardant le passé, la nostalgie, moi, je pense pas que c'est quelque chose de malsain. Au contraire, c'est beau.
C'est une belle émotion.
C'est réconfortant, positif, la nostalgie.
Ouais. Ah, mais j'ai pas de regrets de bord. Je vais me rendre à 140.
Mais est-ce que tu es dans le futur?
Ouais. J'essaie de moins en moins.
Exactement.
J'essaie de moins en moins de me projeter dans le futur, d'être là, dans le moment présent. La vie va tellement vite. Fait que si j'ai une journée avec les enfants, de pas penser à, bon, qu'est-ce que je vais faire à la radio dans deux jours, d'être avec eux autres, d'être concentré dans
les inquiétudes financières aussi, je pense
c'est
que
c'est très anxiogène.
Bien, monde,
le futur, c'est tu fais juste penser à ce que t'as pas. Toutes des affaires que t'imagines qui arriveront probablement jamais en plus. Mmh. Les scénarios sont toujours amplifiés quand tu penses au futur, alors que si tu restes là présentement, j'ai-tu besoin aujourd'hui de plus que ce que j'ai? Souvent, la réponse est non.
C'est tellement bon. Puis ma mère, elle m'a partagé une citation récemment qui m'a beaucoup touchée, que j'aime et je me la répète souvent à moi-même. C'est « L'inquiétude n'enlève rien au problème de demain, mais elle nous dérobe de toute la force de ce jour présent. Mmh, » L'inquiétude, c'est de l'imagination mal placée.
C'est en plein ça.
Bien beau. Alors les gars, je me suis inspirée de l'histoire de Kane Tanaka pour trouver d'autres petits conseils de vie offerts par des gens qui ont atteint ou franchi le cap des 100 ans. Alors pour vivre longtemps, Ashraf, une Iranienne de 100 ans, nous dit qu'il faut rire de la vie. Peu importe la situation, faut trouver une façon d'en rire. Est-ce que vous êtes bon, vous, pour dédramatiser puis pour apporter un petit peu de légèreté à une situation qui est un petit peu plus difficile?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Surtout avec les kids à la maison, d'essayer de tout prendre un peu avec un grain de sel, de rire des situations. Bon, des fois, quand on a de la peine, on a le droit de vivre cette émotion-là aussi. Mais d'enlever un peu la susceptibilité puis de prendre ça à la légère, je pense que c'est important.
Mm. Ouais. Moi, je te dirais que c'est pas mal dans mon ADN des deux familles, le gendre et Derry, qui ont vécu toutes sortes de choses, puis on apprend à rire. L'humour est vraiment très, très, très présent dans mes familles. Donc, j'essaie de faire la même affaire avec ma petite famille aussi. Ouais. On essaie de dédramatiser puis de rire.
Oui. Puis je sais que des fois, c'est délicat de rire de sujets, tu sais, un peu tabous. Tu sais, moi, j'ai été alcoolique, j'ai eu des problèmes, des troubles alimentaires. Mais le fait... Mais oui, mais Joël, même toi, des fois, tu me taquines, tu sais, sur ma boulimie, puis...
Il est bien chien! Pardon!
Non, mais j'adore! Rire de moi, là, ça m'a vraiment aidé à tourner la page puis à guérir. C'est important de rire.
Mais moi, je pense que c'est une belle preuve d'amour. Quand tu es capable de rire avec quelqu'un de ses torts, de ses travers, c'est que tu l'aimes beaucoup et que tu l'apprécies.
Oui,
un vrai rire.
C'est
sans
ça.
Sans méchanceté. C'est ça.
Alors, le secret de longévité de l'Américaine Agnes Fenton, 111 ans, c'est de boire un verre de bière puis un whisky par jour. Puis ça, je trouve ça rafraîchissant parce qu'on se fait toujours dire qu'il faut être en santé, bien manger, pas être stressé, dormir, mais on voit ici que de se faire plaisir puis se prendre une petite bière et un whisky...
Ça vous stresse pas, les deux?
Ben oui, c'est ça.
Mais moi, quand je lis toujours les études sur le café ou sur le vin rouge qui est bénéfique pour le cœur, je dis, tabarnouche, je m'ai pété du cœur. Moi, jeune, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais pris ça de ma vie, mais bref. Ça va avec. Qu'est-ce que tu veux faire?
Toi, tu bois-tu pas mal?
Un petit whisky par jour?
Un petit whisky par jour?
Non, pas de whisky par jour, mais oui, à la maison, c'est festif. Moi, un mercredi, si on a le goût d'ouvrir une bouteille de vin, ma blonde, puis moi, on va l'ouvrir. On n'a pas besoin de la finir. Hein. Ça peut être juste un verre.
C'est ça.
C'est réglé.
Oui, exact. Mohamed, 110 ans, nous dit que pour rester en santé longtemps, il faut mâcher sa nourriture plus que nécessaire. Quand tu penses que tu as assez mâché, ben continue. Puis ça, je trouve que c'est un bon point parce que moi, ça me fâche énormément. Tu sais, quand on passe 30 minutes, même une heure à se faire une bonne bouffe, qu'on s'assoit, puis hey, on l'inspire en le temps de le dire, notre souper. Est-ce que vous autres, c'est important pour vous de prendre le temps de bien manger lentement, longtemps en famille?
Moi, j'ai abandonné ça. Mon gars va avoir 12 ans. Puis j'ai l'impression que il aspire sa nourriture.
Ouais,
hein? Il la mange pas.
Puis pour vrai, quand on a une jeune famille, là, ça se peut pas. Si vous êtes des parents puis vous prenez le temps de passer une heure à table avec votre famille, je vous vénère. Chez nous, là, ça mange en 10 minutes. Je finis restant. Je mange ça, je ravale, c'est fini. Là. Des fois, il est 5h05, on a fini de souper, tout est débarrassé. Je fais tabarnouche. C'est comme ça. Je m'asticripe dans une autre vie.
C'est ça. Quand tu seras à la retraite à 103 ans,
exactement,
Joël. Et en terminant, Betty White est décédée le 31 décembre dernier, à quelques jours de ses 100 ans. Mais elle a dit en entrevue...
Qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct?
Es-tu parfaite, cette femme-là, Colin? Puis elle a dit que ce qui l'aidait à rester jeune, ou du moins à se sentir jeune malgré son âge, mais c'était la gentillesse. La gentillesse, ça nous garde heureux et en santé, pensait-elle. Puis je sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais dernière petite question pour vous, les gars. Bon, Joël, t'es pas centenaire, mais presque.
Oui,
mais,
ça sent bien.
Si aujourd'hui, c'était votre dernière journée sur Terre, quel serait le conseil de vie que vous voudriez qu'on retienne?
Amusez-vous, amusons-nous, rions, ayons du plaisir, pour vrai. Faites ce que vous aimez, surtout au niveau du travail, parce qu'on va en passer des heures à travailler, mais faites ce que vous aimez, pour vrai.
Je suis à la même place à 100%. Ouais. Tout est dans le bonheur, tout est dans le d'avoir du fun. T'sais, on a le privilège, je pense, les trois, d'avoir jamais eu l'impression de travailler, même si on a travaillé excessivement fort chacun dans nos carrières. Ouais. Mais tu sais, c'est pas du T'sais, c'est pas du travail dans ma tête, même si ça en est beaucoup. C'est ce que je souhaite à mes enfants à tous les jours, dans le fond, de trouver une façon d'être heureux dans ce qu'ils font.
Je suis d'accord. Moi, je dirais, il faut arrêter de se prendre si au sérieux. On peut se calmer, puis dédramatiser, puis avoir du fun. Comme
mais appelez-moi monsieur à table.
Moi, c'est ça. Oui.
On est en famille.
Ah, Jessica, j'adore ton sujet d'aujourd'hui. Comment vas-tu?
Ça va bien, toi? Avec nous autres, en fait, la gang.
La gang du matin, on va bien. Hey, Jessica, tu veux nous parler de la déprime post-vacances pour les enfants?
Ben oui, parce que je sais que c'est un phénomène qui est quand même assez important. En tout cas, moi, je le vois chez mes enfants. Fait que j'avais envie de réfléchir à ça. Parce que dans mon cas, ben chez nous, les vacances de Noël, on dirait que c'est les vacances que mes enfants aiment le plus. Parce que c'est comme des vacances un peu fofolle. Ben, on dort dans le salon, on vit sans horaire, on regarde des fois deux films de suite, on mange du gâteau pour déjeuner. C'est tellement merveilleux, les vacances de Noël. On est tellement dans un monde parallèle. Puis là, cette année, on dirait que ça l'était encore plus parce qu'on était confinés. Fait que là, le fait d'avoir un horaire, là, ça n'existait pas. Mes enfants sont tellement couchés tard. Des fois, j'ai regardé mon chum, je disais, ça n'a pas de bon sens.
C'est vrai, ils sont livides. Ils ont la peau livide tellement qu'ils sont fatigués.
Mais c'est exactement ça que je veux mettre de l'avant et dire aux parents. Là, vous vous dites, on a terminé les vacances, c'est le retour à l'école. Mes enfants sont reposés. Non, non, non. Là, ils sont fatigués fois mille. Leur biorhythme est complètement défait. Et là, il faut y aller. Là, on fait un coup de bord, là, 90 degrés. Il faut les coucher de bonne heure, Puis même, s'ils vont vous regarder, écoute, moi, là, je te jure, j'ai parti, c'est l'armée canadienne, là, depuis deux jours, j'ai pas eu le choix. Parce que Caporal Barker, elle a sorti son horaire parce que ça a pas de bon sens. On pourra pas se rendre au bout des 10 jours d'école à la maison. Chez nous, ça a commencé hier. Donc, j'ai commencé le processus depuis lundi de se coucher plus tôt et de vraiment revenir à l'horaire d'école.
Ouais, moi, je fais ça, moi aussi, avec mes enfants. Une couple de jours avant, là, on se remet.
On n'a pas le choix.
Lundi, mon gars, il dit, pourquoi tu me couches à cette heure-là? Je dis, ben, on rembarque dans la routine tranquillement, mais sûrement. Je pense que c'est important de le faire.
Ah, c'est important, t'as tellement raison, parce qu'ils sont complètement déconnectés. Puis tu sais, quand tu dis des heures qui sont normales dans la vie, genre 7h30, on commence 7h30, le processus, lecture au lit, puis tout ça, mais moi, ça fait 2 semaines qu'ils se couchent à 10h, fait qu'ils me regardent comme si j'étais débile, tu sais. Ça, c'est vraiment important de commencer ça. L'autre affaire qu'on peut dire, je trouve ça intéressant. Tantôt, je vous écoutais, vous parliez du fait de vivre dans le moment présent puis d'être toujours dans cette réalité-là. Mais ce qui peut être le fun aussi pour éviter la déprime post-vacances, c'est de mettre l'avant qu'il y en aura d'autres des vacances. Commencer à parler de qu'est-ce qu'on va faire puis se projeter dans l'avenir pour pas qu'il soit juste dans le fait que « Oh, il y a de l'école jusqu'au mois de juin, ça va être tellement long. » Ben non, je vais avoir la relâche. J'aurai pas eu le temps de cligner des yeux puis je vais être encore en train de te voir.
C'est vrai.
Puis après ça, il y a les énormes vacances de l'été. Ouais. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent aussi aider. Puis, faire, ça, je trouve ça amusant, faire un genre de petit retour, les moments forts, peut-être imprimer des photos, mettre ça dans un petit cahier, faire des dessins, s'amuser avec les réalités, qu'est-ce qui nous a rendus heureux, puis qu'est-ce qui a fait que nos vacances ont été magiques. L'autre élément qui est peut-être, là, je vais jouer vraiment à la jovialiste, là. Je le sais que l'école à la maison, tout le monde capote. On est vraiment tout à bout de les parents de gérer ça. Ouais. Mais il faut dire que ça peut être aussi vu comme une belle transition avant le vrai retour. Parce que c'est quand même des heures plus courtes. Dans mon cas, ma prématernelle, c'est seulement 1 heure par jour. Ma grande en 4e année, c'est 2 heures par jour. Fait que ça fait des moins longues journées.
Attends, c'est quoi l'horaire de tes enfants? Moi, mes enfants, c'est fou, là. Ça commence à 8h30 à matin, puis ça va finir à 3h tantôt, là. Ils ont non-stop. Ils sont occupés. J'ai capoté hier quand j'ai reçu l'horaire des kids.
Ah, ben, ça doit dépendre. C'est ça qui est merveilleux au Québec. Chaque personne fait ce qu'il veut.
Oui, c'est ça. Ah, ben, moi, la prof de mes enfants s'est dit, je vais la mériter, ma paye, on va travailler.
Écoute, sincèrement, ma prématernelle, déjà 1 heure, c'est très
beaucoup.
Difficile. Là.
Oui.
Je veux dire, c'est
beaucoup d'attention.
Ça n'a pas de bon sens, une attention d'une heure. Là. Je ne sais pas si on va se rendre aujourd'hui. Puis ma grande écoute 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Puis à un moment donné, en tout cas, je suis un peu inquiète pour tes enfants, Phil. Je t'ai dit ça de même.
Ah, bon.
Oui, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais c'est correct que j'ai accepté de remplacer ce matin à la radio, donc je ne m'occupe pas du début de la journée.
Tu vois, c'est parfait.
On va arriver un peu plus tard.
C'est toujours ça. Il faut juste se prendre des gigs à gauche puis à droite. On est pareil, puis après ça, on ne s'occupe pas des gestions. C'est j'adore ta
façon. C'est bon, hein?
Merci tellement, Jessica. Merci. C'est des bons trucs. Pour vrai, moi, je vais faire les photos. Là. J'adore
oui.
ça.
Ouais.
Un petit retour sur les vacances.
Oh, grand plaisir. Puis à bientôt.
À bientôt. Salut.
Vous écoutez la gang du matin. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, toujours plus de hits. Toujours fantastique.
Rouge.
Le journaliste techno Alain McKenna a sorti un livre intitulé 100 choses à savoir absolument en 2022. La presse y a parlé récemment de 5 concepts qu'on va voir en 2022. Je vous en parle, vous me dites ce que vous en pensez.
Parfait.
Après les pailles en papier, hein, qui sont maintenant devenues en carton, là, en
la
papier.
Norme.
La norme. Place aux bouteilles en papier. Donc, on parle d'une bouteille conçue à partir de fibres de papier déjà testées par Coca-Cola dans certains pays pour remplacer le plastique. Une bouteille de ketchup en carton. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, moi, la seule affaire que, tu sais, les pailles en carton, on dirait qu'après quelques minutes, ça devient un peu mou, puis là, ton breuvage, il goûte le carton. C'est
ça
comme
c'est
si
filoche.
La fibre, c'est frite dans ton breuvage.
Oui.
J'espère juste qu'ils ont amélioré un peu le produit pour que ça ne fasse pas la même affaire avec notre bouteille. Là.
Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée.
Moi aussi, je trouve,
moi,
que c'est
une
bonne idée.
Une excellente idée. Tu vas dans un festival comme au Chiaga, le lendemain matin, il y a des bouteilles en plastique qui traînent partout.
Le sais.
Ah, c'est
là, c'est des bouteilles en carton, bien, au moins, ça se recycle différemment. Il faut quand même, avoir une conscience écologique. Là.
Oui.
C'est des arbres, donc achetez-vous pas un 24-pack par semaine de bouteilles en papier. Là. Tout est dans le dosage, je pense.
Exact. C'est sûr. Mais que, que le plastique soit remplacé par le carton, je trouve vraiment que c'est une excellente idée.
Absolument.
Aussi. La semaine de 4 jours va être beaucoup plus populaire en 2022.
Et puis tant mieux, il y a quelques années, Microsoft au Japon a fait une expérience, puis ils ont offert à leurs employés la chance de travailler seulement 4 jours. Puis c'est important de dire que c'était pas des plus longues journées, parce qu'il y en a des compagnies qui disent oui, travailler 4 jours, mais c'est des journées de 10-12 heures. Donc là, on leur disait, vous faites 4 jours, mais votre 8 heures normales par jour et la productivité et le rendement a augmenté de 40 %.
C'est incroyable.
Ils ont réalisé, les patrons, que plus l'employé est heureux, plus il est productif et mieux il performe. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant au final.
Moi, je suis pas d'accord.
Non!
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
4 jours?
Moi, je travaille à radio vendredi, samedi, dimanche. Faites le décompte. Moi, je travaillerai pas une journée de plus, certain. Je n'accepte pas les journées de 4 jours. Non, 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 non.
Ah, toi, femme, ta gueule. Une autre tendance en 2022. Carey Price pourrait te souhaiter bonne fête.
Ah.
Aux États-Unis, c'est rendu très, très populaire. C'est l'application Cameo, donc qui permet de recevoir une vidéo personnalisée d'un artiste.
On a vu ça au Bye Bye.
Ben oui, c'est ça.
Ben oui, exactement. Mais on a la même affaire ici qui s'appelle Et Allô. C'est très, très populaire. Puis il y a plusieurs des artistes qui remettent leur cachet, entre autres ici au Québec, à la Fondation Véro et Louis.
Ouais.
Donc, quand vous appelez à cette plateforme-là, Et Allô, ben il y a des sous qui vont aussi pour Véro et Louis, puis je trouve ça le fun.
Ben oui.
Bon, l'autre nouvelle, j'essaie de la comprendre, je comprends rien. Tu peux être téléporté dans une salle près de chez toi. Donc, tu vas te mettre des lunettes qui vont te projeter de l'information. Ces lunettes-là ont des capteurs de mouvement qui vont te permettre de savoir où tu es dans l'environnement physique. Donc, ça crée une réalité où tu es à la fois dans le virtuel puis dans le réel.
Hey,
moi, je ne suis pas prêt d'avoir ça, ces lunettes-là. Je ne comprends rien de ce que je viens de vous dire.
Là, je pense qu'on parle du métavers. Donc, les Bill Gates, les riches de ce monde, prévoient qu'un jour, tout va se faire dans un monde, un univers virtuel. Donc, on va rester à la maison, puis en portant ces lunettes-là, on va pouvoir aller magasiner, on va pouvoir faire nos meetings de bureau, mais ça va être avec un avatar. Donc, nous, on reste en pyjama chez nous, mais on a un bonhomme, puis avec nos lunettes, c'est le bonhomme qu'on suit. Puis c'est ce bonhomme-là qui travaille, qui magasine, qui vit sa vie.
Hey, moi, tu m'aimes ça. D'angoisse, j'ai une boule dans le...
Ça me fait penser à Wall-E.
C'est
le film d'animation Disney, Pixar, le Wall-E, où c'est qu'ils sont tous devenus obèses parce qu'ils bougent plus, puis tout se fait comme ça. Non, j'embarque pas.
Oh, dernière petite affaire, t'auras chaud ou froid à volonté. Ah, c'est un bracelet Amber Wave, donc qui va très, très bientôt arriver sur le marché, qui va pouvoir gérer notre cerveau pour ajuster notre température corporelle.
Ça,
là, moi, je le prendrais n'importe quel site en studio. Là, il fait moins 50.
Ça a l'air que Véro en a deux.
Oui, c'est ça qu'on allait dire. Donnez-en un à Véro qui a
chaud. Parce
qu'il
a toujours chaud.
Joël qui est toujours prêt ici en studio. J'adore.
Mais c'est quand même le fun. Donc, peu importe où tu vas, tu dis à ton cerveau, OK, là, il va faire un peu plus chaud, fait qu'on va pouvoir aller skier à des moins 40. On va être bien pareil. Ceux qui souffrent de la chaleur l'été vont être heureux, mais de quoi on va parler si on chiale plus de la température?
Je sais, mais moi, ça m'aurait pris ça là, pendant les 4-5 ans que j'étais dehors chaque matin à 4 heures. Là. Boy, ça m'aurait pris ça.
Ça vous fait peur, toutes ces technologies-là, ou pas du tout?
Non, moi, j'embarque. Moi, je trouve ça cool. On avance. Il y a peut-être les lunettes là, que je suis un peu moins certain. Okay. Mais le reste, je me dis, on avance. Si on regarde 100 ans derrière, là, en 1922, il a regardé tout ce qui n'existait pas, qui existe aujourd'hui. Ça a facilité notre vie sur bien des affaires. On vit plus vieux. Puis je me dis, ben c'est ça. On est aussi bien d'avoir des idées, d'innover comme population, puis d'avancer un peu.
Exact. Puis choisir comme être humain de ne pas embarquer dans telle ou telle affaire. Ça nous appartient.
Moi, je
aussi.
Célèbre toutes les avancées, surtout dans le domaine médical, mais ma peur, c'est qu'on perde tout contact humain, c'est que tout se passe justement dans un monde virtuel, puis qu'on puisse plus, c'est qu'on est à l'épicerie, que ce soit une machine, puis qu'il n'y ait plus personne pour nous
mais
servir.
Ça arrivera jamais.
Ça
arrivera jamais. Je veux revenir sur cet article dans la presse intitulé « Comment les papas disent je t'aime ». Dans l'article, on dit que les pères ont été élevés à une époque où les messieurs n'étaient pas supposés de parler de leurs sentiments, pas démontrer leurs émotions non plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais il ne fallait pas les montrer parce que on dirait qu'on les sentait plus faibles, les hommes, à l'époque. Donc,
À l'époque, ça n'a pas besoin d'être très, très loin. Moi, j'ai 38 ans, puis mon père, j'entendais pas beaucoup de « je t'aime » à la maison. C'était comme ça. Fait que c'est pas au début du 19e siècle. C'est quand même assez récent. Je pense que les papas, on se laisse aller dans nos émotions avec les enfants.
Et toi, est-ce que tu le fais avec tes enfants?
Toujours. Ouais. Minimum une fois par jour.
Ah, moi aussi, c'est ça.
Puis quand je les aime pas, je leur dis aussi.
Non, mais ça va avec.
Exact.
Mais es-tu aussi capable avec tes enfants de reconnaître quand toi, tu fais une erreur et de t'excuser à tes enfants?
À 100%.
Ouais.
Tu sais, les enfants, c'est des éponges dans la vie.
Ouais.
Donc, tout ce que tu leur donnes, ils le prennent. Fait que si tu leur montres que tu t'excuses jamais, mais ça pourra pas fonctionner. Ils s'excuseront pas par la suite.
Exactement. Mais moi, je trouve que c'est en train de changer. On est dans un moment de transformation. Là, puis je sais que j'en parle souvent, mais les gars à occupation double qu'on a vu cette année, qui partagent leurs émotions.
Très sensibles.
Oui, très sensibles, qui n'ont pas peur entre eux de se dire « Hey, je t'aime, bro, je t'aime ». Je pense que les hommes d'aujourd'hui, les jeunes adultes et les papas de demain seront pas mal plus ouverts et sensibles et proches de leurs émotions. Puis ça, c'est vraiment positif.
Mais dans cet article-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que pas besoin de dire « je t'aime » nécessairement. Il y a des pères d'une autre époque qui ne sont pas capables de le dire, mais qui vont te le démontrer autrement. Par exemple, c'est ton anniversaire, ton père te dit jamais « je t'aime », mais va t'apporter un coffre à outils du Canadian Tire. Mais il faut que tu vois là-dedans l'amour du père aussi, qui n'est pas capable de le dire. Puis si tu attends juste que ton père te dise « je t'aime », mais tu ne vois pas à côté tous les signes qui sont exceptionnels, bien, tu passes à côté de quelque chose aussi.
Moi, mon père ne le verbalise pas.
Non.
Cette génération-là, mais est toujours là pour moi. J'ai été hospitalisé il y a quelques années. J'avais une pierre, puis il a passé la nuit à l'hôpital avec moi. Il était là. Il a toujours été là, puis il me le démontre de d'autres façons. Mais les mots « je t'aime », c'est pas des mots qu'on prononce dans la maison chez mes parents.
Ben, tu vois, ça me fait penser à mon chum qui a 36 ans, puis son père, il va pas lui dire « je t'aime ». Il va pas lui écrire un petit « je t'aime » par texto. Mais quand il voit le « hey, tu sais, la tape sur l'épaule », puis tu le vois, il y a de l'amour.
Oui.
Il aime son fils, puis il prend la main, puis il donne un câlin, mais il est pas capable de dire « je t'aime ». Chez nous, on est trois filles, puis je pense que ça mon père vient d'une famille très stricte, 10 enfants, un père qui a fait l'armée, qui avait pas l'habitude de grandir en disant « je t'aime », avec ses trois filles, disons que ça sortit son côté un petit peu plus sensible. Mais nous, il nous démontrait son amour en venant nous border chaque soir. Il nous donnait un petit bec sur le front, puis il nous faisait une petite croix.
Oh, c'est bien
puis
cute.
On n'est pas catholique très pratiquant,
non,
mais il nous faisait une petite croix pour qu'on soit protégés.
Avec le Saint-Crème, j'espère.
Oui.
Il vous baptisait à toutes les nuits.
Puis encore à ce jour, après nos soupers en famille, même en plein hiver, le soir, il sort en t-shirt dehors, puis il nous regarde partir une à une.
Ouais.
Les unes après les autres, on part, on embarque dans la voiture, puis il descend, puis il regarde dans la rue jusqu'à temps qu'il nous voit plus.
Il est protecteur,
puis on le sent, son amour, dans ce temps-là.
C'est beau, hein?
Ouais.
C'était l'anniversaire de mon copain qui a eu 40 ans. On a fêté ça en novembre dernier, avant le retour de la pandémie, heureusement. On était une centaine de personnes. Et à la fin de l'hommage, mon fils, mais incapable d'arrêter de pleurer. Pleurait, m'a broyé, moi aussi, mais c'était tellement touchant. Et mon fils avait amené sa blonde avec lui, il la présentait à tout le monde. Et là, on revient dans l'auto après, puis je disais à sa blonde, « Ça t'as-tu fait quelque chose de voir que ton chum a pleuré? » Oh, je l'aime encore plus.
Oh, wow.
Je trouvais ça
tellement cute. Je dis, quelle belle génération d'hommes on est en train de faire.
Ah, tellement.
Lui, il avait de la peine. Pas de la peine, mais il était touché de ça, de voir que son père se faisait fêter puis qu'il était tant aimé de tout le monde. Puis sa copine est en amour encore plus avec son chum qui pleure devant tout le monde. Ouais. Ah, j'ai trouvé ça magnifique.
C'est faux de penser qu'un homme n'est pas aussi sensible qu'une femme.
Donc.
On est tous également sensibles. C'est juste que malheureusement, les gars, vous avez tellement été refoulés. On ne vous a pas laissé la chance d'exprimer cette belle tendresse-là, cette belle sensibilité.
Comme l'influenceur dirait, on est des tapettes puis des fifs. C'est tout ce qu'on mérite.
Ben, je suis bien content. Je suis bien content de
penser
à mes enfants
tapette,
que je les aime.
Je suis bien content d'être une tapette. Alors, Phil, on en parle beaucoup depuis deux jours. Là, tu vas nous faire la différence entre créateur de contenu et influenceur, parce qu'il y a une différence.
Oui, mais le mot influenceur, là, c'est un peu un mot passe-partout qui englobe tous ceux qui sont un peu vivants sur le web, tous ceux qui ont une certaine notoriété. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs catégories. On va régler la première. Un influenceur dont la notoriété, c'est à cause d'une télé-réalité, c'est devenu spontané, puis tout d'un coup, tout le monde veut se coller à lui. Ça, c'est nos coucous à Cancun. Ça, c'est réglé. Mais vous êtes, vous aussi, des influenceurs d'une certaine façon.
Oh my God, tu m'annonces ça, moi, 55 ans, je suis un influenceur.
Mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous portez une chemise, que vous portez des vêtements, les gens vont regarder ce que vous faites. Ça peut influencer la façon dont ils vont s'habiller, ce qu'ils vont acheter, les produits qu'ils vont consommer. Puis vous n'êtes pas besoin d'être collé à une marque, pas besoin d'avoir un chèque qui vient nécessairement avec.
Non,
vendre quelque chose.
Ouais, on influence que par le statut, si on veut, en ouvrant un peu sur notre vie privée, sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est une façon de le voir aussi.
C'est ça. Si je parle d'une voyante, par exemple, je reçois 150 demandes. Comment s'appelle ta voyante? Puis je peux savoir son numéro de téléphone, tout ça. Fait que ça, c'est une forme d'influence aussi.
Exactement. Okay, ben oui, on peut le rentrer là-dedans.
Oui.
Parce que Véronique Loutier, qui ne vend pas vraiment de produits sur les réseaux sociaux, au nombre de personnes qui la suivent, je suis convaincu qu'à chaque fois qu'elle lance un nouveau magazine Véro, elle reçoit plein de messages. Ta robe, tu l'as pris où? Tes vêtements, tes opinions, et ci et ça. Donc, on influence d'une certaine façon.
OK. Oui.
Il y a les créateurs de contenu aussi.
Oui.
Et ça, c'est des gens qui ont une passion à la base. Quelqu'un qui aime le tricot, le magasinage, les rénovations et qui va décider d'en parler de plein de façons, que ce soit sur une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, rédiger des articles, un blog sur Internet. Tout ça, c'est une façon d'influencer en créant du contenu.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà consulté des créateurs de contenu?
Ben moi, j'en suis quelques-uns sur Instagram. Il y a par exemple Juliette Bélanger, qui est la fille de Daniel Bélanger.
Oui,
on a vu
la chanson
un petit peu plus tôt. Elle, c'est une étudiante en victimologie, criminologie. Puis dans tout ce qui s'est passé dans les dernières années, la vague MeToo aussi, les dénonciations, les gens qui faisaient leur coming out sur les médias sociaux, elle nous a aidés à y voir plus clair. Elle l'a vulgarisé le tout avec son expertise. C'est un compte incroyable à suivre, Juliette Bélanger sur Instagram. Ça, pour moi, c'est une réelle créatrice de contenu, professionnelle, crédible.
Ouais. Mais Joël te dit non, pas vraiment. T'as jamais eu un... Non, mais sans nécessairement les suivre, n'en consommer. T'sais, ton lave-vaisselle est brisée, tu vas voir un tutoriel sur YouTube, un gars qui montre comment réparer un...
On le fait à la maison, ça c'est drôle, on le fait. Puis on a réussi à réparer notre lave-vaisselle.
Mais ça, c'est des créateurs de contenu, créer du contenu gratuit sur YouTube. Donc, on s'en sert d'une certaine façon pour aider notre quotidien. Ça peut être très payant d'être créateur de contenu. Squeezie est un YouTuber français. Il a seulement 25 ans, 16,5 millions d'abonnés sur YouTube. Ses revenus annuels sont estimés à 4,5 millions par année.
Mais qu'est-ce qu'il fait, Squeezie?
Il fait des vidéos. Moi, mes enfants sont des fans finis de Squeezie. Il va faire des vidéos où il joue aux jeux vidéo, va parler d'un sujet. Il est rendu il fait des chansons, il a sa marque de vêtements. 4,5 millions $ par année, 25 ans.
Sacré Squeezie.
Mais ça me fait penser à Lisandre Nadeau au Québec, qui est vraiment comme l'une des premières vraies YouTubers. Elle est suivie par 364 000 personnes sur Instagram. Et ce qu'on aime de Lisande, c'est sa transparence.
Ouais.
Sa transparence, elle parle sur Instagram. C'est comme si elle parlait à sa meilleure amie ou à son frère ou à sa mère. Elle nous révèle tout sur sa vie. Ça crée un sentiment d'attachement. C'est pour ça qu'on la suit. Puis cette notoriété-là qu'elle a bâtie sur les médias sociaux, ça lui a ouvert toutes sortes de portes. Là. Elle a eu un rôle récemment dans une série à la télévision. Bon, là, elle s'est ouvert aussi un OnlyFans. Mais juste avec ça, elle fait, je pense, comme 75 000 $ par mois, c'est pas plus.
Ouais. Donc,
quand ça fonctionne puis que t'as ton public qui te suit puis qui est fidèle, ça peut être payant.
Mais Lisanne, c'est un beau success story. Ça a commencé chez elle. Je pense qu'elle vient du coin de Matane. Elle se filmait sur YouTube, racontait ses petits problèmes à l'école d'une adolescente de 12-13 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se livre autant. Puis il y a des fois, des gens disent dis donc bien, mais elle a toujours fait ça. Ouais. Ça fait partie de son branding. Ça fait partie de sa personnalité sur les réseaux sociaux. J'avais envie de vous proposer quelques créateurs de contenu oui. que je trouve le fun. Oui. Maman Caféine, qu'on a pu voir, entre autres, sur Canal Vie. 200 000 personnes la suivent sur Facebook, 89 000 sur Instagram. Maman de 4 enfants, bientôt 5. Et c'est du contenu pour la famille, les jeunes familles. Moi, ma blonde, elle a vécu sa maternité, sa grossesse en pandémie. Donc, loin de tout le monde, loin des amis, mais elle trouvait ça intéressant de pouvoir aller consulter son blog, aller chercher des conseils à gauche et à droite. C'est réconfortant. Il y a Lydiane autour du monde qui, elle, on l'a connue à occupation double.
Bien sûr.
Et en 2013, elle a décidé de tout abandonner, vivre de sa passion, voyager.
Immeuble, elle.
Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que pendant la pandémie, elle s'est renouvelée. Elle a décidé de voyager au Québec. Mmh. Elle s'est dit, on va faire ça au Québec. Et là, si vous cherchez, là, tu vas aller faire un tour à Quaticook. Tu vas savoir exactement dans le détail quoi acheter. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. J'en ai un dernier rapidement. Rosalie Lessard, si vos enfants sont sur le point de quitter en appartement, elle a étudié à l'ITHQ et elle a 500 000 abonnés. C'est la Ricardo des jeunes. Vraiment, elle donne des idées de recettes. C'est vraiment inspirant. C'est le fun.
Et là, on va en régler des affaires, mesdames et messieurs. Ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur nous autres. Puis peut-être, vous aussi, vous allez en apprendre plus sur nous. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? On le sait pas. C'est rien que des niaiseries. On part avec ça. OK, le bye-bye ou Infoman?
Oh, faut choisir entre les deux?
Oh, oui!
Eh bien, moi, je m'excuse, mais ça va être le bye-bye. Je suis un fidèle.
Ouais.
J'ai-tu dit bye-bye? Ça va être Infoman.
Oh, tu vois, je t'aimais. Là, je t'aimais.
Je suis un fidèle de Infoman. Ça arrive même la semaine, la quotidienne. Je peux l'écouter deux fois, deux, trois fois. J'aime vraiment beaucoup Infoman.
Comment t'as trouvé cette année le Infoman de fin d'année?
Mais c'était parfait. On dirait qu'il est toujours précis sur ce qui s'est passé. Il nous rappelle des événements. Il va toujours un peu plus loin également que la nouvelle. Il est audacieux. C'est un essentiel dans notre télé québécoise. Mais j'ai adoré le bye-bye. C'est un excellent bye-bye qu'on a eu cette année. Oui.
Mon chum aussi, et comme toi, il a préféré Infoman au bye-bye, mais moi, je suis une fille de bye-bye. J'aime ça, ça me fait rire. Je vois tout le travail, on dirait, qui va derrière les sketchs, puis je trouve ça admirable.
Moi aussi, les sketchs, il n'y a rien à faire. Mm. J'ai adoré le bye-bye cette année. Quelle partie du corps l'avez-vous en premier?
Les aisselles, moi.
Moi aussi.
Oui.
Ah ben moi, c'est mes cheveux.
Ah oui, tu commences
pas par les cheveux?
Non.
Non, ben moi, je trouve que là, j'ai eu chaud.
Moi aussi, on dirait qu'il faut que je me lave. Tu me mouilles tout, puis après ça, je prends le savon, puis je commence par les
cheveux. Ah non, mais moi, j'ai l'impression que si après ça, si je lave mes cheveux à la fin, je vais tout me ressalir. Ça va tout couler sur moi.
Tes cheveux si gras que ça.
Ben non, jamais. J'ai lave à tous les jours, mais je sais pas.
C'est pas de l'huile d'olive qu'on te met sur le corps au grand complet.
Mais chez nous, on dirait que la teinte à eau chaude est petite. Puis si mon chum prend sa douche avant moi, on dirait qu'il m'en reste pas beaucoup d'eau chaude. Fait que je me dis tant.
Les priorités.
Les priorités, c'est ça.
Les aisselles pas à floune, ça presse.
La floune, j'aime ça.
Quelle est votre plus grande phobie?
Vas-y, Phil.
Ce genre de questions-là me met.
Ben, je vais y aller. Ma plus grande phobie, c'est que mes enfants soient enlevés.
Ah oui.
Ça, ça arrive pas souvent, mais des fois, j'y vois dans le rond-point en avant, puis je dis, allez pas trop proche de la rue, je sais pas pourquoi on dirait que ça pourrait pas m'arriver, je survivrai pas à ça.
Je comprends ce que tu dis, mais moi, ma plus grande phobie, c'est que mes enfants en région me retrouvent.
T'es nombreux,
Monsieur Starbucks.
Oui, c'est ça. Eh bien, moi, ce serait de perdre quelqu'un que j'aime. Que quelqu'un que j'aime se blesse, puis qui souffre, ça, pour moi, de voir quelqu'un que j'aime avoir mal, c'est la pire affaire.
OK, question existentielle. La meilleure saveur de chip, c'est quoi?
Les Doritos. Peu importe la sorte de Doritos.
Dégueulasse.
Les Doritos.
Non, c'est vrai.
Des chips au cornichon.
Ah ben voyons.
Ça aussi, c'est bon,
votre affaire.
Toi, Joël, c'est quoi?
Moi, c'est All Dress.
Le sac noir puis orange, hein, qui est un peu sucré.
Oui.
C'est ça, c'est
ça. Ça, je l'aime bien. Sinon, les Miss Vicky ordinaires, Oh my God. Puis, il nous donne l'impression, quand tu lis derrière, que c'est fait à la main.
Que c'est pur, hein?
C'est cuit en marmite.
Oui!
Fait que tu croques ça, tu fais, mon Dieu, je me fais donc bien du bien.
Tu manges un légume.
Tu manges vraiment un légume.
Non, les chips, c'est fait pour se gâter. Des Doritos, c'est plus de sel possible.
C'est chimique, des Doritos. Ça, c'est même pas du vrai fromage. Mais en même temps,
t'aimes-tu les spicy?
Je pense que c'est même pas des vraies patates.
Non, c'est ça.
C'est même pas rien.
C'est même pas des vrais triangles.
OK, les couteaux dans le lave-vaisselle, pointe en bas ou pointe en haut?
Mais pointe en bas.
Oui?
Oui, oui, c'est plus sécuritaire pour les enfants. Ma fille, elle commence à fouiller dans la vaisselle par en bas.
Mais pointe en bas, là, ça accroche pas, toi, des fois, dans le petit carrelage. Là, tu mets ça, puis là, tu peux pas fermer
dans
la porte parce que le... moi, ça m'arrache.
J'ai une gestion impeccable du lave-vaisselle. Okay. D'ailleurs, ma blonde qui écoute en ce moment, j'ai vraiment une gestion impeccable du lave-vaisselle.
Ben, écoute donc.
Et nous autres, c'est dégueu comment on remplit le lave-vaisselle. On lance les affaires. On était à 2 mètres du lave-vaisselle. La porte est ouverte. On lance ça dedans. Let's go, on part ça.
Vous préféreriez être très grand, 7 pieds, ou petit, 4 pieds?
7 pieds, moi.
Oui, ben, tu n'es pas loin de
ça. 7.
7 pieds, moi, c'est 4 pieds.
Ah, ouais,
ah, j'y vois tout le dos recourbé, puis on dirait qu'il meurt plus jeune, les grands. Non, on va vivre plus longtemps, petit. Tranquille.
Mais on dirait que c'est parce que moi, j'ai eu ce problème-là. J'étais très grande, puis j'avais le dos, je me tenais vers l'avant parce que j'étais complexée de ma grandeur.
Ah.
Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Vous connaissez Keanu Reeves.
Oui.
Il est tellement réputé, lui, pour être généreux. Ben, il a versé 70 % de son salaire à la recherche contre la leucémie. Donc, il y a déjà cette réputation-là d'être un des acteurs les plus généreux d'Hollywood. Mais là, 70 % de son salaire du film Matrix pour la recherche contre la leucémie, c'est vraiment trop généreux. Il a fait le don de cette somme-là parce que sa sœur a été atteinte de leucémie, maladie qui a occupé près de 10 ans de sa vie. Elle est âgée aujourd'hui de 55 ans. Et elle a appris qu'elle avait un cancer du sang en 91 et son frère n'a jamais oublié ça. Donc, il a été payé 10 millions de dollars pour le film, la base. Ensuite, il a reçu 35 millions de dollars en droits pour le premier film de la saga. Donc, il a décidé de donner 70 % de ce salaire-là. Et là, j'entends des gens dire, mais oui, mais il est multimillionnaire, il peut bien donner de son salaire. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça. Moi, que tu fasses une scène ou que tu en fasses, c'est ton argent à toi et tu décide d'en donner, quel acte généreux, incroyable.
Ouais, je trouve que tu nais, tu as la fibre de la générosité, tu l'as ou tu l'as pas, fait que tu gagnes 15 000 par année ou 15 millions par année, c'est en toi de vouloir aider, de vouloir donner, puis c'est quelque chose que Keanu fait si bien. Puis ce que je trouve, c'est qu'il a tellement l'air simple comme gars, t'sais, on le voit souvent en photo sur des bancs de parc, il est toujours habillé, on dirait comme un sans-abri, il a pas l'air d'un multimillionnaire, puis il est tellement fin, il avait donné, je pense, des Rolex ou des gros cadeaux aussi à toute la gang sur son plateau de tour de film. Il était cœur, hein, ce gars-là.
Dans la vie, il n'y a pas de petits dons.
Il
peut avoir des gros dons, mais il n'y a pas de petits dons. L'important, c'est d'être capable de donner selon ce qu'on est capable de donner. Puis, tu sais, Keanu, tant mieux si lui, il se sent généreux, puis il se dit, moi, je vais donner 70 % de mon salaire. Il peut se le permettre. Puis, tu sais, c'est admirable. Je trouve ça.
Puis, ce qui est encore plus admirable, j'ai l'impression que de sa part à lui, c'est jamais lui qui l'annonce. Tu sais, il ne se sert pas de ça pour se faire un capital de sympathie. Donc, je trouve que c'est encore mieux, mais qu'est-ce qu'on choisit? D'annoncer sa générosité ou de ne pas donner pantoute? Parce que ça peut influencer les autres.
Mais oui.
Mettons qu'un artiste décide de donner 1 million de dollars, il dit c'est très bon pour lui, mais ça peut inciter d'autres personnes à le donner. Ou alors on fait ça anonymement pour vraiment savourer la générosité dans la plus pure expression.
Ben moi, je pense que quand tu as un standing comme Keanu Reeves, de le dire publiquement, justement, ça donne de la visibilité à la cause. Ça donne, coup de publicité. On en parle ce matin. Et on n'en aurait pas parlé sinon, si Keanu n'avait pas fait ça. Donc, ça l'aide la cause. Oui, ça va pour son standing, ça l'aide son image, mais je pense pas que c'est ça qui est prioritaire, c'est le fait qu'on parle de la cause de ce matin.
Mais moi, je trouve ça quand même beau que ce soit pas lui-même qui l'annonce. Ouais. La personne qui reçoit l'organisme, qui reçoit cet argent-là, va probablement en parler aux médias, puis c'est comme ça qu'on finit par le savoir. C'est vrai qu'il y a certaines personnes connues on dirait qu'ils font des fois des bons gestes juste pour le dire puis attirer le capital de sympathie, mais il reste qu'au final, s'il y a un don qui a été fait, c'est juste
c'est ça.
Dernière nouvelle. Breaking news.
Oh my God! Il est 8h15 précise, on vous l'avait promis, on vous le donne. Alors, on s'en va parler à une dame qui est présentement en limousine. Bonjour, à qui parle-t-on?
Bonjour, mon cher Joël, vous parlez à votre Guilou.
Allô! Guylaine!
Mes amis, je suis dans ma limousine, comprenez-moi. Est-ce que je suis fébrile? Est-ce que je suis nerveuse après vous autres?
Mais là, quel genre de nuit t'as passé? Parce que là, tu t'en vas à la maison, là.
Deux mots, Joël, sommeil fragmenté.
Hey, ça doit, ça doit. Bon, comment t'as fait tes adieux à tes enfants pas à ton chum?
Bon, ça a quand même été relativement simple. La majorité des gens dormaient à la maison et c'était très bien ainsi parce qu'on voulait pas là de valve émotive ou quoi que ce soit. Mais mon chum, évidemment, je l'ai bien coaché. Là, je pars-tu une semaine, je pars-tu deux mois et demi?
Et là,
je le sais pas. Le plus longtemps possible, on l'espère, puis gagner encore plus.
Je te le souhaite.
Mais merci, c'est gentil. Mais bref, non, ça s'est super bien passé. C'est comme un peu un rêve. Là, je suis pas embarquée dans une limousine très souvent dans ma vie non plus. Fait que là, je m'amuse avec les pitons de chauffage parce que la fille est en pré-ménopause et ça fait.
Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Pourquoi t'as dit oui à cette aventure-là?
J'en avais parlé à l'émission à un moment donné à Véronique, elle est fantastique. J'aimerais ça faire ce show-là. Moi, j'ai un chalet rénové. J'envoie ça à la blague et dans l'univers. Et quelques jours plus tard, je reçois un appel de la production qui me dit, puis là, je dis, mais là, êtes-vous sûr, là, vous m'avez bien vu, là, on s'entend qu'il y a des compétitions plus sportives et tout. Et d'emblée, on me dit, on te veut sur le show. Fait que j'ai pas réfléchi trop longtemps. J'ai dit à mon chum, on est-tu prête? Il dit oui, puis j'ai dit oui, puis voilà. Puis pour m'amuser, évidemment, puis pour faire partie d'une vraiment une aventure unique. Hein. C'est Varda qui a dit ça l'année dernière. Elle dit, tu sais, faire ça, c'est comme aller sur la Lune, là, tu vas une fois, là. Ouais. Fait que je me sens comme ça, comme une astronaute de l'inconnu.
Ça fait combien de temps que tu as été déconnecté des réseaux sociaux et de toute la vie? Parce que là, tu ne sauras pas ce qui se passe. Si le Canadien gagne la Coupe Stanley, tu ne seras pas au courant.
Moi, je serai au courant de rien. Heureusement, là, j'ai tout lu ce qu'il fallait que je lise, ces influenceurs avant de partir.
C'est correct.
C'est correct. Après ça, c'est fini. Mais moi, je fais des purges de réseaux sociaux quelques jours. Donc, je suis pas trop inquiète de ça. Je pense peut-être que pour d'autres participants, ça sera un peu plus difficile. Mais bref, je veux pas boire l'eau du bain avant d'y avoir trempé. fait que je vais voir, mais j'ai aucune idée avec qui je m'en vais. Je sais pas. Ah, tout!
Mais Guilou, qu'est-ce qui te stresse le plus par rapport à toute l'aventure, mettons, outre les compétitions, là?
Évidemment que c'est un jeu social. Hein?
Oui.
Il faut perdurer dans le temps aussi. Le fait qu'on soit confiné, ce qu'on aura expérimenté quand même pas mal tout le monde dans les deux dernières années. Mais je pense que moi, je suis bien préparée pour ça. Tu sais, j'ai une résilience naturelle. Je suis habituée d'être dans une bulle. Fait que ça, je pense que c'est à mon avantage. J'ai été monitrice de camp. Fait que tu sais, vivre avec du monde, des pets, tout ça. Moi, ça me fait pas peur.
Non. Mais Guylaine, ce que je te connais depuis plusieurs années et tu as zéro, t'as rien de méchant en toi. Comment tu vas faire pour faire ta place, puis compter des mensonges, faire des stratégies, avoir des alliances? Me semble que je te vois pas faire ça.
T'as bien raison. Mais je pense que mon taux hormonal élevé en ce moment va faire en sorte que ça va vraiment faire sortir la Cruella en moi.
Oh, j'adore.
Ouais, non, je le sens. Là, écoute, des matins, je veux tuer tout le monde.
J'adore.
On va mettre ça à mon avantage. Oui. Personne n'est en danger, là, je tiens à le dire. Là, personne n'est en danger.
Non.
Mais reste que, tu as raison, Joël, mais je pense qu'il y a une façon d'utiliser et la douceur et aussi la stratégie. Je pense que je vais inventer un modèle.
Pourquoi pas?
Je suis pas jeune non plus. Là.
Une nouvelle influenceuse, un nouveau type d'influenceur. Et moi, je suis curieux de savoir, Guilou, c'est sûr que si tu pars comme ça, t'as amené un petit souvenir de tes enfants. Qu'est-ce que t'as amené là, pour te faire penser à tes gars?
Mon stérilet.
Ah oui? Non. Pour ne plus jamais recommencer ça.
Non, ben j'ai amené rien. Non, j'ai des souvenirs dans mon cœur.
C'est parfait.
C'est bon, ça c'est parfait.
Ah, mais Guylaine, tu vas être parfaite. J'ai tellement hâte de te regarder dans mon téléviseur. Et ça commence ce dimanche, 18h30 sur Nouveau. Merci beaucoup et bienvenue à Big Brother Célébrité. Pour moi, t'es le plus beau cadeau qu'ils pourront pas avoir, c'est sûr.
Voyons, et je suis très heureuse d'y aller en tant que femme de 52 ans, toutoune.
Ah, c'est beau.
Diversité, mes amis, diversité.
Hey, on est derrière toi, Guilou, t'es déjà ma préférée, en tout cas.
Ouais.
Merci, je vous aime.
On s'en parle au mois d'avril.
On a contact avec le monde.
Oui!